reste de la pluie près de la Méditerranée toute la journée. Les averses arrivent sur la façade atlantique dans l'après-midi et ailleurs une alternance de nuages et d'éclaircies. Quelques orages possibles dans le massif central. Il fait plutôt doux, 7 degrés au plus frais dans les Ardennes et le centre ce matin, jusqu'à 15 en Corse, 10 degrés à Paris et à Toulouse.
Et bienvenue sur Radio Classique, nous sommes le 14 avril 2025, il est 6h.
La matinale écho de Radio Classique avec Charles Bonner.
Et Virginie Fulpin pour le premier journal de la matinée.
Le monde sous le choc après l'attaque russe meurtrière à Soumy dans le nord-est de l'Ukraine. 34 morts, une centaine de blessés en pleine tractation diplomatique pour une trêve sous l'égide des États-Unis. La Chine, première cible, mais l'Europe pourrait être la première victime des droits de douane américains. Certains secteurs craignent un déferlement de produits made in China sur le continent. Et puis que vaut un souvenir des Jeux de Paris 2024? Près de 230 000 euros, c'est ce qu'a rapporté la vente aux enchères organisée hier.
Après ce journal, Netflix dépose un recours devant le Conseil d'État contre les règles de diffusion des films sur Internet. C'est dans les titres échos à 6h10. 6h15, comment j'ai réussi? Une carte de crédit pour les aidants et les aidés. C'est Payello, son président Arnaud Décharne est avec nous. Virginie Fulpin, la communauté internationale condamne unanimement l'attaque russe à Soumy en Ukraine.
Sous le choc, ce sont les mots du secrétaire général de l'ONU après le bombardement qui a fait au moins 34 morts et une centaine de blessés dans la ville du nord-est du pays. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis des mois en Ukraine, en pleine tractation pour une trêve sous l'égide des États-Unis. Le futur chancelier allemand Friedrich Merz dénonce un grave crime de guerre. Tetiana Ogarkova est la journaliste responsable du département international de l'ONG Ukraine Crisis Media. Pour elle, cette attaque meurtrière est la preuve que Vladimir Poutine n'a que faire des négociations.
Poutine, il ne va pas s'arrêter parce que son projet initial, c'est la disparition de l'Ukraine de la carte politique du monde. Sur le fond de négociation, la Russie continue à attaquer l'Ukraine en démontrant qu'il est capable de continuer cette guerre. Donc, il utilise les négociations pour sortir des isolements diplomatique, économique, en cédant rien justement dans son projet initial contre l'Ukraine. C'est-à-dire qu'ils vont continuer jusqu'au moment où ils y arrivent. Et pour l'arrêter, il faudrait lui proposer davantage.
Tetiana Ogarkova répondait à Régine Ralech. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, appelle Donald Trump à venir voir la guerre en Ukraine pour constater les dégâts de l'agression russe. Chloé Sénard, bonjour.
Bonjour.
Les Américains se retrouvent sommés d'agir.
Pour le Conseil de sécurité nationale des États-Unis, cette attaque est un rappel brutal de l'impératif de négocier pour mettre fin à cette terrible guerre. Mais depuis mars, c'est la proposition des États-Unis d'un cessez-le-feu inconditionnel accepté par Kiev. La Russie attaque l'Ukraine sans relâche. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, une frappe d'ampleur à Kryvyi Rih, dans le centre du pays, a fait au moins 18 morts, dont 9 enfants. Cette fois-ci, l'attaque survient 2 jours après la rencontre de l'émissaire américain Steve Witkoff avec Vladimir Poutine en Russie, leur 3e entretien depuis février. La méthode ne semble pas fonctionner, ce qui provoque l'agacement de Donald Trump. Il y a quelques jours, le président américain a appelé les Russes à cesser de bombarder comme des fous. De son côté, l'Ukraine accuse la Russie de faire traîner les pourparlers. Poutine n'a jamais voulu arrêter la guerre, il n'a jamais voulu que nous soyons indépendants. Poutine veut nous détruire complètement, a déclaré Volodymyr Zelensky.
Merci Chloé Sénard. L'état-major ukrainien promet une riposte inévitable après cette attaque de Soumy. À Gaza, c'est un bombardement israélien qui a mis à l'arrêt un des rares hôpitaux encore en fonction. Hier, un enfant est mort à cause de l'interruption des soins provoqués par cette frappe, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Israël assure que l'hôpital était utilisé comme base arrière par le Hamas, ce que dément l'organisation terroriste. Des discussions encourageantes entre les États-Unis et l'Iran ce week-end à Oman. L'Iran précise quand même que seul le dossier nucléaire sera discuté avec les Américains. Le ministre de la Défense des États-Unis prévient que si ces pourparlers n'aboutissent pas, les États-Unis seront prêts à frapper fort. Donald Trump continue à jouer au yo-yo avec ses droits de douane. Le président américain annoncera dans la semaine des surtaxes sur les semi-conducteurs. Hier, il annonçait une exemption de cette surtaxe sur les produits high-tech. Mais aujourd'hui, il répète qu'aucun pays n'est tiré d'affaire, surtout pas la Chine. Le président chinois Xi Jinping l'avertit que le protectionnisme ne mène nulle part. Cette guerre commerciale menée par Donald Trump contre le monde entier, mais particulièrement contre la Chine, risque d'avoir de lourdes conséquences en Europe. Certains secteurs, comme le textile ou l'automobile, craignent en effet un déferlement de produits made in China, Zoé Pallier.
Aujourd'hui déjà, plus d'un colis sur 5 livrés par la Poste vient de sites chinois comme Temu, géant du commerce à bas coût. Ce chiffre risque d'exploser si la Chine ne peut plus vendre aux États-Unis, redoute Alain Humberg, président de l'Association des créateurs français de jouets.
Ces fabricants chinois de jouets qui travaillent pour les grosses boîtes américaines type Hasbro, Mattel, qui ont leur plus gros marché aux États-Unis, il va bien falloir qu'ils trouvent un débouché. C'est sûr qu'il va rentrer des produits moins chers. Ça défavorisera ceux qui fabriquent en France.
Face à ce risque, plusieurs réponses. La première consiste à renforcer les contrôles de la répression des fraudes pour vérifier que ces produits respectent nos normes. Autre levier, augmenter nous aussi en Europe certains droits de douane. Marc L'Olivier dirige la FEVAD qui réunit les professionnels du commerce en ligne.
Les petits colis en provenance de Chine aujourd'hui bénéficient d'une exemption de droits de douane, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droits de douane sur les colis de moins de 150 euros. Et donc nous, ce qu'on demande effectivement, c'est qu'on mette un terme à cet avantage totalement injustifié qui est une concurrence déloyale pour nos entreprises.
Et puis, notamment pour des secteurs comme la chimie ou l'automobile, l'Europe pourrait activer ce qu'on appelle une clause de sauvegarde et mettre en place des quotas à l'importation.
Et le sujet sera forcément abordé ce matin lors du premier conseil des entreprises. Les représentants des organisations patronales sont reçus au ministère de l'économie. Le ministre de l'économie, justement, Éric Lombard, préfère nous prévenir si on veut tenir le déficit à 4,6% du PIB comme prévu. Ça va demander un effort considérable, c'est-à-dire entre 40 et 50 milliards d'économies à trouver l'année prochaine. On en saura un peu plus demain, normalement, lors d'une conférence gouvernementale sur les finances publiques.
Il est 6h06, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau est en visite au Maroc.
Une visite express, il est arrivé hier soir, il repart cet après-midi. Bruno Retailleau va s'entretenir avec son homologue marocain. Au cœur des discussions, la lutte contre le trafic de drogue et l'immigration irrégulière. Des dossiers qui avancent bien plus avec le Maroc qu'avec l'Algérie, Lauriane Toulmont.
Arrivé hier soir à Rabat, Bruno Retailleau a amené avec lui une liste de ressortissants présumés marocains que la France souhaite expulser. Certains cas sont toujours bloqués. Le ministre de l'Intérieur espère donc obtenir des laissez-passer consulaires. Rien qu'entre janvier et février, le Maroc en a délivré plus 93,5% par rapport à l'année dernière. Le signe de relation au beau fixe entre Paris et Rabat, et ce depuis la reconnaissance l'été dernier de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Une prise de position qui a provoqué le courroux de l'Algérie. Et depuis, Bruno Retailleau a beau enchaîner les menaces et les invectives. Avec Alger, rien n'y a fait. Le dossier algérien lui a d'ailleurs échappé au profit de l'Élysée et du Quai d'Orsay. Pour celui qui est aussi candidat à la présidence des Républicains, c'est un camouflet. Un sénateur LR note l'imprudence du ministre de l'Intérieur. Il est très brillant, mais sa surcommunication peut montrer son impuissance, poursuit l'élu en concluant. Plus au gouvernement dur, plus Bruno Retailleau perdra.
Des prisons en préfabriqué. Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, est allé en visiter en Allemagne vendredi et il accélère leur construction en France pour créer 3000 places pour des détenus en fin de peine ou condamnés à de courtes peines. Le but étant de lutter contre la surpopulation carcérale. La première prison de ce type verra le jour dans l'Aube l'an prochain. Les maires des communes du littoral de la Manche demandent l'aide de l'État. Samedi, 50 candidats à l'exil en Angleterre ont été secourus lors de plusieurs opérations de sauvetage en mer. En un an, les traversées sur des embarcations de fortune ont augmenté de 22%. Et les maires des petites communes se retrouvent en première ligne et ne peuvent pas faire face. C'est le cas de Stéphane Pinto, le maire d'Ambleteuse, une commune de 2000 habitants dans le Pas-de-Calais.
Quand il y a des migrants qui viennent sur la commune, s'ils sont mouillés, on doit ouvrir une salle, on doit leur porter assistance, on leur offre du café, du pain, enfin voilà, un peu de denrées alimentaires de manière à ce qu'ils puissent manger et puissent réchauffer, quoi. Après, ben, c'est d'entretien des salles quand ils sont passés, c'est des heures de travail qui sont plutôt comptabilisées pour la problématique migratoire plutôt que sur le service rendu à la population. Ça coûte cher pour des communes comme nous, ça peut être entre 3 et 10 000 euros sur l'année, quoi. C'est quelque chose qui a été demandé au ministre de l'Intérieur de voir un peu comment on pouvait compenser cette perte financière des communes. J'espère et je pense que le ministre réagira, quoi.
Des propos recueillis par Lucie Dupressoir. Il y avait deux moyens d'avoir une médaille hier à Paris, courir le marathon, aller au bout et recevoir sa médaille de finisher, comme on dit. Ou alors, y mettre le prix, des médailles et 200 objets des Jeux de Paris 2024 étaient mis aux enchères. Nina Valette, vous avez assisté à l'événement. Le Musée National du Sport de Nice s'est mobilisé pour éviter que cet héritage ne disparaisse dans le monde entier.
D'un discret hochement de la tête.
Preneur ici, adjoint.
Nicolas vient de s'offrir le costume et la tête du mime Marceau, visible lors de la cérémonie d'ouverture. Il vient de dépenser un peu plus de 1000 euros.
Morceau d'histoire à plusieurs titres, celui du mime Marceau, de cette cérémonie très artistique. Très belle pièce, ouais. Et là, il y a eu une faille dans la vente. C'était pas numéroté au catalogue, ils ont pas pu le présenter. Donc...
Un soulagement, vous l'entendez, pour ce collectionneur du centre de la France. Marie Grasse, la directrice du Musée national du sport à Nice, ne s'est pas imposée avec cette petite phrase que redoutent tous les acheteurs.
Préemption de l'État au bénéfice du Musée national du sport, merci.
Représentante d'un musée national, elle est en effet prioritaire en fin d'enchère.
C'est dommage d'être obligée de faire préemption pour... préserver le patrimoine commun à tous. Peu de vestiges de 1924. Donc, fort de cette expérience, on s'est dit qu'il fallait quand même avoir des souvenirs de 2024.
Sur les 200 lots de cette vente aux enchères, une quarantaine vont donc prendre la route des Alpes-Maritimes. Costumes de Marie-Antoinette, BMX, décors en tout genre, toutes ces pièces des Jeux de Paris 2024 seront visibles au Musée national du sport à Nice. Une salle entière sera dédiée à cet événement à partir de 2026.
Pour les Jeux d'hiver 2030, pas encore de vente aux enchères, mais une nomination aujourd'hui. Cyril Linette devrait être nommé directeur général.
Merci Virginie Fulpin, c'était le journal de 6h. Vous revenez à 7h, d'ici là on déroule le programme dans 20 secondes. Les titres de l'économie, puis le premier invité de cette matinale.
Bonjour, c'est Elodie Fondacci. Que diriez-vous d'une nouvelle histoire pour les vacances ? Il était une fois une jeune fille appelée Blanche-Neige qui fuyait une méchante sorcière. Elle trouva refuge dans une minuscule maison habitée par 77 nains.
Découvrez Blanche-Neige et les 77 nains, la nouvelle histoire en musique d'Elodie Fondacci. Un livre de David Ekali à retrouver aux éditions Talent Haut. Disponible pour la première fois en écoute binaurale sur toutes vos plateformes habituelles.
6h, 7h, la matinale écho de Radio Classique avec Charles Bonner.
Il est 6h11, les titres de l'économie. Ce sera finalement dans la semaine. Donald Trump va annoncer rapidement le tarif des droits de douane appliqués aux semi-conducteurs. Ils en sont jusque-là exemptés, comme les téléphones et les ordinateurs. Les États-Unis qui sont dépendants de la Chine. Aujourd'hui, le commissaire européen au commerce rend aux États-Unis pour mener de premières négociations. Aucune rencontre n'est prévue avec Donald Trump, plutôt avec des responsables de son administration. La guerre commerciale qui se concentre surtout sur la Chine. Son président Xi Jinping entame une tournée en Asie du Sud-Est. Première étape aujourd'hui au Vietnam, suivi de la Malaisie et du Cambodge. Il va rencontrer à chaque fois ses homologues pour leur vendre une Chine stable, contrairement aux États-Unis dont il fustige la politique protectionniste qui ne mène nulle part, dit-il, selon son expression. Le gouvernement prépare l'opinion à l'idée de fortes baisses de dépenses. Pour boucler le prochain budget, il faudra au moins un effort de 40 à 50 milliards d'euros. C'est ce que disait hier le ministre de l'économie, Éric Lombard, sans donner de détails. Ce sera principalement des baisses de dépenses, pas d'augmentation d'impôts pour la classe moyenne. En revanche, le ministre défend l'impôt sur les hauts revenus, présenté comme temporaire. Il voudrait le prolonger. Une mesure pour éviter l'évitement fiscal, un impôt qui rapporte 2 milliards d'euros et qui concerne moins de 25 000 contribuables. Et puis le week-end du 8 mai, menacé par une grève à la SNCF, la CGT Cheminots dépose un préavis, rejoignant l'appel de Sudrail et d'un collectif de contrôleurs. Ils demandent des plannings mieux anticipés et une augmentation de 100 euros par mois de leurs primes. C'est une bataille que mènent les grandes plateformes de vidéos à la demande auxquelles une grande partie des Français est abonnée. C'est la bataille de la chronologie des médias, c'est-à-dire le nombre de mois après la sortie d'un film au cinéma où les films peuvent se retrouver dans un catalogue. Bonjour Pierre Pilet.
Bonjour.
C'est le fait économique du jour. Netflix veut diffuser des films plus vite et a donc déposé en fin de semaine un recours devant le Conseil d'État.
Oui, Netflix veut gagner 3 mois de délai, c'est-à-dire diffuser les films 1 an après leur sortie en salle contre 15 mois à l'heure actuelle. Pour ce faire, la plateforme ne compte pas pour autant augmenter son financement du cinéma français, 50 millions d'euros actuellement. Le délai d'attente pour diffuser un film dépend principalement du pourcentage du chiffre d'affaires que le diffuseur consacre à la production cinématographique en France, 4% pour Netflix. En début d'année, Disney Plus a réussi à faire passer son délai d'attente de 17 mois à 9 mois. Pour ça, la plateforme va verser 25% de son chiffre d'affaires à la création audiovisuelle, soit 5% de plus qu'actuellement. Le recours de Netflix concerne le nouvel accord sur la chronologie des médias. L'arrêté a été publié en février, accord qui s'applique à Netflix, même si la plateforme réforme ne l'a pas signé.
Pierre Pilet, voilà pour un aperçu de l'actualité de l'économie. Le journal de l'économie, c'est en longueur et c'est à 6h45. Il est 6h14 dans Comment j'ai réussi ce matin, le président de Payello.
Avec Natran, opérateur national de transport de gaz.
Bonjour Arnaud Descharnes.
Bonjour Charles.
Et bienvenue sur Radio Classique. Payello, c'est une solution de paiement pour les aidants et les aidés. C'est une carte de crédit, tout simplement, qui permet de gérer les dépenses des personnes qui perdent leur autonomie. Alors parfois, quand une personne perd son autonomie, c'est un petit peu humiliant de devoir lui donner de l'argent de poche. C'est encore assez répandu aujourd'hui.
Alors malheureusement, oui. Moi, l'idée m'est venue d'une expérience personnelle. C'est ma grand-mère. À partir du moment où mes parents se sont aperçus qu'elle avait Alzheimer, ils lui ont pris voiture, chéquier et cartes. Et après, effectivement, elle est obligée de demander de l'argent de poche à ses propres enfants. Et c'est malheureusement une pratique courante qui, aujourd'hui, moi, m'a paru comme une double sanction à la vulnérabilité. Et c'est pourquoi j'ai créé, effectivement, la carte Payello.
Alors, Payello, ça permet de programmer, finalement, une carte bancaire. On peut limiter les dépenses. Comment ça fonctionne?
Alors, l'objectif est, bien évidemment, de soulager le quotidien des aidants familiaux, de soulager le quotidien des aidants type aide à domicile, et, bien évidemment, de redonner de l'autonomie à la personne vulnérable. Payello, c'est une carte Visa classique qui fonctionne avec un code confidentiel et ou en sans contact. La seule différence, c'est qu'on a été mettre de l'intelligence derrière. Et que du coup, cette carte se pilote soit de manière programmée ou soit en temps réel directement sur l'application sur Android ou Apple. Et donc, on peut l'activer uniquement de 10h à 11h sur un montant de dépenses que l'on aura défini, sur une utilisation que l'on aura définie. Si je dis c'est que pour le boucher, le boulanger, le magasin Leclerc, la personne ne pourra ni retirer au distributeur, ni acheter sur Internet.
La carte va faire comme opposition, c'est un petit peu ça le principe.
Alors, en fait, quand la carte n'est pas activée, elle est complètement, effectivement, c'est comme si elle était en opposition.
On pourrait théoriquement tout faire avec cette carte, acheter sur Internet par exemple?
On peut tout faire. Par contre, on peut tout faire dans les deux sens. C'est-à-dire que je peux ouvrir tous les droits de manière à ce qu'elle puisse être utilisée comme une carte Visa classique. Et où je peux effectivement dire je ne veux pas que cette carte elle fonctionne sur Internet, je ne veux pas que cette carte puisse retirer au distributeur, etc.
Et c'est aujourd'hui un enjeu majeur, on le sait, puisqu'il y a de plus en plus de personnes concernées par la perte d'autonomie d'un proche. Et donc les arnaques se multiplient avec des personnes qui sont vulnérables.
Oui, alors aujourd'hui on estime qu'on a un peu plus de 12 millions d'aidants. On sait qu'il y a aussi un facteur qui est quand même différenciant comparé à avant, c'est qu'on a un éloignement moyen entre l'aidant et l'aidé qui est de un peu plus de 216 km aujourd'hui. Ce qui fait que pour soulager l'aidant, et je rappelle quand même que 1 sur 5 aujourd'hui est un salarié aidant, et bientôt il y en aura 1 sur 3 en 2030. Et du coup, je ne me rappelle plus de votre question, pardon, la fin.
La question c'était sur les arnaques qui se
arnaques, multiplient. Et voilà, et donc du coup, effectivement, on sait que 60% des plaintes déposées sont le fait de personnes vulnérables.
Pour les aidants, il faut donc qu'ils viennent ouvrir un compte en banque chez vous. Comment ça se passe?
Pas du tout. Nous, on a un agrément auprès de la CPR, donc c'est le régulateur de la Banque de France pour les banques françaises. Et donc nous, on est de fait partenaire de l'ensemble des différentes banques. Donc la personne garde bien sa banque, ses placements, sa mutuelle, tout ce que vous voulez, sa domicile, son retraite. Rien ne change. Et nous, Payello, on est simplement la carte de ce que j'appelle moi des dépenses courantes. Et donc il suffit de faire un virement tous les mois du montant sur la carte.
Quel est le coût d'ailleurs de cette carte bancaire?
C'est un abonnement mensuel qui coûte peu ou prou 10,99 €. Alors après, on a deux choix. Soit la personne, elle fait le choix de garder aussi sa carte si par exemple elle est cliente au sein des caisses d'épargne. Et donc du coup, elle aura une cotisation en plus. Si on sait qu'elle n'a pas forcément les moyens, du coup, elle arrêtera simplement sa carte dans sa banque pour ne garder que la carte Payello.
Pour développer Payello, vous allez donc voir chaque établissement bancaire. Est-ce qu'ils ont intérêt à travailler avec vous plutôt qu'à développer leur propre solution?
Alors, développer une solution aujourd'hui prend énormément de temps et coûte extrêmement cher. Nous, on a cette chance, c'est d'être agile. Et donc, du coup, on a réussi à le faire en 2 ans et demi. À l'inverse, un établissement financier, et j'en viens, donc du coup, j'étais directeur commercial, directeur marketing, je sais la lourdeur du processus pour pouvoir faire une solution du même type que Payello. Et donc, du coup, c'est pas pour tout de suite. Ce pourquoi on collabore déjà avec des banques. Et donc du coup, l'intérêt pour elles, c'est à la fois d'aller identifier les aidants, parce qu'on sait qu'elles ont un gros problème sur la fuite de capitaux sur les successions, et puis en plus, ça répond forcément à un besoin aussi bien des aidants et des aidés.
Donc désormais, cette carte est commercialisée depuis plusieurs mois. Est-ce que vous avez eu des retours de certains clients, des choses auxquelles vous n'aviez tout simplement pas pensé?
Alors, on a des cas d'usage sur lesquels on n'a pas pensé. On a eu une association qui nous prend pas mal de cartes pour des personnes qui se droguent, donc pour éviter qu'elles retirent de l'argent au distributeur. Donc là, typiquement, c'était un cas d'usage que l'on n'avait pas pensé. Après, on a beaucoup de demandes pour les enfants.
Oui.
Voilà, donc c'est aussi un cas d'usage que l'on n'avait pas pensé, y compris des banques d'ailleurs, ce qui est rigolo. Donc du coup, je ne dis pas qu'on ne le fera pas, mais peut-être qu'on le fera un jour, mais sous un autre nom que Payello. Nous, on se concentre effectivement sur l'accompagnement des aidés et des aidants.
Et donc, c'est une solution pour faciliter le maintien à domicile, et on sait que c'est très important. Merci Arnaud Descharnes, le président de Payello. Vous étiez ce matin dans Comment j'ai réussi. Il est 6h19.
La matinale écho de Radio Classique. Avec Charles Bonner.
Un petit peu d'histoire dans les classiques de l'économie ce matin. Bonjour Natacha Valla.
Bonjour Charles.
Ce matin, vous nous parlez d'une crise de la dette souveraine qui a touché l'Europe dans les années 90.
Oui, absolument. C'était au tout début où on mettait en place les bases de la monnaie unique. Donc, il n'y avait pas beaucoup de recul et pas beaucoup de confiance dans le fait que cette monnaie unique pouvait être pérenne. Le système monétaire européen qui a été instauré à la fin des années 70, 1979, a été introduit pour précisément maintenir une stabilité des taux de change qui allait justement mener à une monnaie unique entre les pays membres de ce qui était à l'époque la Communauté économique européenne. Et ça, en réalité, à l'été de 1992, l'Italie, on va en parler aujourd'hui, a vu une spéculation incontrôlée contre sa monnaie, mais ça a été le cas aussi d'autres pays qui sont considérés aujourd'hui comme centraux à la monnaie unique, que sont l'Espagne, le Portugal et le Royaume-Uni, qui a pris une trajectoire différente depuis.
Alors, quelles sont les origines de la crise italienne? On va se concentrer là-dessus.
Alors, pour l'Italie, comme pour les autres pays, le fait d'adhérer à ce projet, ça a été un renoncement à sa politique monétaire indépendante, c'est-à-dire qu'elle devait s'aligner sous contrainte de taux de change fixe. C'était vraiment le système qui permettait de faire la transition vers une monnaie unique. On avait une libre circulation des capitaux, donc toute réaction un peu à des incertitudes ou à des craintes se voyait très directement par des sorties d'une des monnaies des pays membres. Donc en Italie, ça a été bien sûr aussi le cas. Et il y a eu cet impératif lié à la fixité des taux de change, impératif de désinflation. Il a fallu donc mener une politique monétaire qui était quand même contraignante potentiellement par rapport au cycle. Et puis, on s'est rendu compte que d'un point de vue macroéconomique, l'Italie, ben finalement, il y avait une inflation qui persistait beaucoup plus importante que la moyenne des pays qui allaient devenir les pays membres de la zone euro. L'Italie subit un ralentissement de croissance, donc inflation un peu trop forte, une croissance qui n'est pas là, et surtout des finances publiques qui sont, de fait, quand même assez mal géré. On a un taux de prélèvement obligatoire qui augmente comme ça en quelques années de 10%. On passe à plus de 40% de taux de prélèvement obligatoire en termes de pourcentage de PIB. Et les dépenses publiques qui augmentent à un rythme beaucoup plus important que les revenus du gouvernement. Donc en fait, le déficit budgétaire se creuse. Le service de la dette devient, on le verra après, quasiment insoutenable, puisque en une dizaine d'années, la charge de la dette passe d'environ 5% du PIB à plus de 10% du PIB. Donc c'est énorme. Passer 10% de ce qu'un pays est capable de générer en richesse au remboursement des intérêts sur la dette, ça devient quelque chose d'assez insoutenable. Alors,
c'est une crise de confiance qui aurait pu se régler d'elle-même d'une certaine manière. Alors pourquoi on est entré dans une spirale de spéculation?
Alors ça a été vraiment la malchance du contexte général. C'est arrivé au moment où on souhaitait concrétiser, vous vous souvenez, le traité de Maastricht, quand même une référence pour la construction de la monnaie unique. On a un référendum au mois de juin, c'est le Danemark qui doit s'exprimer. Le Danemark dit non à la monnaie unique. On avait d'autres opinions publiques qui allaient être testées. Donc l'Italie se trouve prise dans ce faisceau de forces très négatives et se met assez maladroitement à vouloir rétablir les finances publiques par des augmentations d'impôts mal calibrées. Elle a mis une taxe sur les comptes bancaires des épargnants. Et ça, au lieu de rétablir la confiance, ça a complètement dégradé l'environnement. Des spéculateurs, on les connaît aujourd'hui, on sait que certaines grandes fortunes se sont faites à ce moment-là, en particulier contre le sterling dans le cadre du Royaume-Uni, mais sur l'Italie, ça a généré pas mal de profits aussi sur les marchés de change. La lire décroche, les spéculateurs se mettent vraiment contre la lire, et là, qu'est-ce qui doit se passer encore à l'époque, puisque la lire avait encore cours légal? La Banque d'Italie doit vendre ses réserves sur les marchés d'échange pour défendre la lire, ce qui souvent ne marche un moment mais marche pas longtemps, et c'est ce qui s'est passé. La Banque d'Italie perd le contrôle, elle doit cesser. En fait, elle a augmenté ses taux d'intérêt vers 10-14% et elle doit cesser les interventions et accepter de voir que la lire était effectivement surévaluée par rapport à ses circonstances macroéconomiques.
Et maintenant qu'on a du recul, est-ce qu'on peut dire que ça a été une mauvaise chose pour l'Italie ?
Eh bien, ça c'est assez drôle, c'est un peu une ironie de l'histoire, parce qu'on s'est beaucoup moqué de l'Italie, on s'est dit voilà, les désinflations, les dévaluations compétitives sont finalement de mauvais instruments d'intervention, et avec le bénéfice du recul, on se rend compte qu'en matière d'inflation, en matière de croissance, il y a des nouveaux articles qui ont été publiés sur le sujet, et bien finalement l'Italie s'en est pas si mal sortie que ça. Il y a d'autres problèmes en Italie d'ordre économique, mais de ce point de vue-là, ça n'a pas forcément été un épisode trop coûteux pour son économie.
Merci Natacha Valla et la crise de la lire italienne dans les classiques de l'économie ce matin. Vous revenez demain matin avec Stéphane Pedrati. Et tout au long de la semaine, on vous présente les concerts du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Ce soir à 20h30 au Grand Théâtre de Provence, c'est un programme de musique de chambre qui sera donné par Renaud Capuçon au violon, Kian Soltani au violoncelle et Mao Fujita au piano. Ils interpréteront le trio pour piano et cordes numéro 1 de Schubert et le trio pour piano et cordes numéro 1 de Brahms, dont voici un extrait. Thank you.
du Brahms pour commencer la journée. Et c'est en longueur, ce soir à 20h30. En attendant, la matinale de Radio Classique continue. Et ces derniers jours, on a vu le yo-yo sur les marchés, des alternances entre très forte baisse et petite hausse. Le CAC a terminé dans le rouge vendredi. Ce matin, les bourses asiatiques sont dans le vert, plus 1,5 pour le Nikkei japonais. Des fluctuations qui ne vont pas réconcilier les épargnants avec les actions. 6%, c'est en moyenne la part que représentent les actions dans l'épargne des Français. On en parle dans le chiffre du jour avec Laurent Chaudeur juste avant le journal de 7h. Mais d'ici là, la météo. Bonjour bonjour Servane de Pastre.
Bonjour Charles Bonner, bonjour à tous.
Le ciel est globalement couvert aujourd'hui.
Oui, avec quelques éclaircies de Bordeaux à Strasbourg, les températures sont douces. Il fera 12 à Brest, 16 à Aurillac et 20 à Toulouse au meilleur de la journée.
6h, 7h, la matinale écho de Radio Classique. Avec Charles Bonner.
Et à 6h30, c'est Servane de Pastre pour le journal.
Le plus grand hôpital encore en fonction dans le nord de la bande de Gaza a été touché par une frappe israélienne hier. 300 à 400 personnes pourraient être privées de soins chaque jour. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine inquiète les entrepreneurs français, notamment dans le secteur de l'habillement, vous l'entendrez. Et puis les JO de Paris 2024 continuent de susciter des vocations, notamment dans les disciplines paralympiques.
Et après ce journal, l'Europe se prépare à l'arrivée massive de produits chinois, c'est à la une du journal de l'économie dans 15 minutes. À 7h15, la guerre commerciale, comment y répondre? On en parle avec Antoine Bouet du CEPI, c'est l'invité de l'économie. C'était l'un des rares hôpitaux encore en fonction dans la bande de Gaza.
Et le plus grand au nord de l'enclave, l'établissement a été mis à l'arrêt hier par une frappe israélienne. Un enfant a été tué car privé de soins. Israël dit avoir ciblé un centre de commandement du Hamas. Le mouvement islamiste dément. L'OMS appelle de son côté à la fin des attaques sur les services de santé. Lauriane Toulmont.
Il était 2h du matin dimanche lorsque l'alerte a été donnée. 20 minutes plus tard, les bombes sont tombées sur l'hôpital Al-Ahli. Dans ce laps de temps très court, les 88 patients ont été évacués dans la rue. Privé d'oxygène, un enfant blessé à la tête est décédé lors de l'évacuation. Quelques heures plus tard, Maher Ayed s'est rendu sur place pour constater les dégâts. C'est le chef du service de chirurgie de l'hôpital.
Le laboratoire de l'hôpital a été complètement détruit, la pharmacie aussi. Et comme il reste très peu d'hôpitaux à Gaza, qui fonctionnent avec une capacité d'accueil très limitée, certains de nos patients sont revenus dans notre hôpital. Le bâtiment principal est encore intact, mais on ne pourra plus accueillir de nouveaux patients parce que le service des urgences a été endommagé.
Ce sont 300 à 400 personnes par jour qui ne seront plus soignées en urgence, regrette le docteur Fadel Naïm, directeur par intérim de l'hôpital.
Je suis à la fois triste et en colère. On ne peut plus aider les gens, je me sens impuissant. C'est peut-être la cinquième fois qu'on est visé. La première, c'était au début de la guerre, en octobre 2023. À l'époque, on pensait que ce n'était pas normal, que c'était une exception qu'Israël vise des hôpitaux. Maintenant, c'est la règle.
Depuis le début de la guerre, 33 des 36 hôpitaux de Gaza ont été touchés, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé qui recense en tout 670 attaques israéliennes contre les services de santé palestiniens.
Lauriane Toulmont. Hier, une frappe russe sur la ville de Soumy dans le nord-est de l'Ukraine a fait au moins 34 morts et plus d'une centaine de blessés. Condamnée par les Européens et les Nations Unies, c'est l'attaque la plus meurtrière depuis des mois. Elle intervient deux jours après la visite d'un haut responsable américain en Russie. Écoutez la réaction du président ukrainien Volodymyr Zelensky publiée sur son compte Telegram hier.
L'une des deux frappes a touché le cœur de la ville. Le dimanche des rameaux, seuls des salauds complètement dérangés peuvent faire quelque chose comme ça. Je voudrais remercier tous ceux qui se souviennent que la guerre se termine lorsque les crimes de guerre ne sont pas oubliés et quand l'agresseur rencontre une pression suffisante. Et c'est exactement ce qui nous manque en ce moment.
Pour les États-Unis, cette frappe est un rappel brutal de l'impératif de négocier et mettre fin à la guerre.
Il est 6h33, Donald Trump va annoncer de nouveaux droits de douane cette semaine.
Ils concerneront les semi-conducteurs entrant aux États-Unis. Aucun pays n'est tiré d'affaire, estime le dirigeant, et surtout pas la Chine. Depuis la semaine dernière, les produits chinois entrant aux États-Unis sont imposés à 145%, malgré un volte-face vendredi dernier sur certains produits de la tech. On y reviendra avec François Vidal à 7h10 dans les édito de l'économie. Cet affrontement commercial entre la Chine et les États-Unis inquiète en Europe. Certains secteurs craignent le déferlement de produits made in China à bas coût. C'est le cas de l'habillement. François-Marie Gros est le directeur général de la Fédération du prêt-à-porter féminin.
Il y a déjà une réglementation douanière aujourd'hui qui exonère de droits de douane tous les petits colis en dessous d'un montant de 150 euros qui sont importés dans l'Union européenne. C'est vraiment le moment de supprimer cette exemption et de soumettre ces produits au droit commun. Il y a la proposition de loi qui prévoit d'imposer les acteurs de la mode ultra express jusqu'à 10 euros par article en 2030. Donc ça pourrait également faire la différence. Si il s'avère que les importations chinoises à très bas prix arrivent massivement sur le marché européen, on a tous les instruments qui permettraient de les freiner.
François-Marie Gros, au micro de Zoé Pallier. Ces inquiétudes, les organisations patronales pourront les exprimer au ministre de l'économie. Elles sont reçues ce matin à Bercy pour un premier conseil des entreprises. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, qui a annoncé hier que la France devra réaliser un effort supplémentaire de 40 milliards d'euros l'an prochain afin d'atteindre l'objectif de déficit public de 4,6% à l'horizon 2026. Il précise que ces efforts seront réalisés grâce à la croissance ou sur des réductions de dépenses publiques. 5 ans après la pandémie de Covid, des interrogations persistent sur son origine. En France, des scientifiques et des journalistes demandent la création d'une commission d'enquête parlementaire. L'un des enjeux, c'est d'améliorer la sécurité collective, car après les États-Unis et l'Allemagne, c'est désormais l'Académie de médecine de France qui penche pour l'hypothèse d'une fuite de laboratoire. Pour Renaud Piaroux, le chef du service d'infectiologie de la Pitié-Salpêtrière à Paris, il est vital que les députés se penchent sur la question.
Cet accident de recherche potentiel a pu se passer dans un laboratoire qui avait été installé par la France en Chine, qui avait une coopération scientifique avec la France au moment du début de la pandémie. Ça ne veut pas dire que ce travail sur les coronavirus était fait dans ce laboratoire de haute sécurité. Ça vaut le coup quand même de se poser la question de ce qui était fait et ce que c'est devenu. Finalement, dans une démocratie, je pense que c'est le rôle des élus que d'aller interroger les experts, les services gouvernementaux sur ce qui s'est passé. Pour pouvoir prévenir une nouvelle pandémie du même type, c'est beaucoup plus facile si on a l'origine de la précédente.
Renaud Piaroux au micro de Rémi Pfister. Alain Fischer, le président de l'Académie des sciences, sera l'invité de la matinale à 8h15.
Une journée importante pour les JO d'hiver 2030 dans les Alpes.
Oui, car le nom du futur directeur général du comité d'organisation doit être dévoilé. Un nom circule, celui de Cyril Linette, ancien directeur général du Paris Mutuel Urbain. Et la barre est haute. Le souvenir des JO de cet été est encore très présent. Il continue même de créer des vocations. Ce week-end, le comité paralympique français organisait un programme de détection afin d'orienter des sportifs vers les disciplines qui leur correspondent. Ça s'appelle La Relève. Lucie Dupressoir, vous y étiez. Et les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont encore dans tous les esprits.
Allez. Pas mal. 8 mètres, meilleur score du jour.
À la première place au lancer de ballon, Rémi, amputé de la jambe droite après un accident de moto en 2022.
Impressionné par ma performance, je m'y attendais pas, la technique m'est venue naturellement.
S'il est ici, c'est grâce aux Jeux Paralympiques de Paris.
Je l'avais dans le coin de la tête pendant les JO, parce que c'était à ma période où je faisais pas mal de sport après ma sortie de centre de rééducation. Ça a multiplié un peu l'envie, quoi.
Comme Cécile, qui souffre de séquelles physiques après un cancer, elle a suivi les Jeux en tribune, elle se verrait bien désormais sur les terrains.
C'était quand même hors norme. Ça donne un semblant d'espoir pour continuer la compétition autrement, voire nous mettre des paillettes dans les yeux et aller aux Jeux Para, qui sait.
Los Angeles.
Ouais, ça serait le graal ultime. En tout cas, j'ai envie de m'en donner les moyens.
L'effet Paris 2024, c'est 28 participants pour cette édition de la relève, contre 18 l'année dernière. Mais les profils manquent encore de variété, regrette Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique.
On est peu présent sur le sport féminin, sur aussi les formes de handicap sévères. Donc on a un enjeu de travail à faire à moyen terme pour aussi arriver à orienter ces publics vers la compétition paralympique.
Même si tous ne rejoindront pas la délégation française, seulement 12 athlètes recrutés lors des précédentes détections ont participé aux Jeux paralympiques.
Lucie Dupressoir. Lui avait reçu le prix Nobel de littérature en 2010. L'écrivain d'origine péruvienne Mario Vargas Llosa est décédé hier à l'âge de 89 ans. Il était notamment connu pour son roman autobiographique La Tante Julia et le Scribouillard. Et du vélo pour finir, le néerlandais Mathieu Van Der Poel a décroché une 3e victoire sur le Paris-Roubaix. Il termine devant son grand rival, le Slovène Tadej Pogacar. Le vainqueur du Tour de France a été victime d'une chute à 38 km de l'arrivée.
Et chez les femmes, samedi, c'est Pauline Pauline Ferrand-Prévot qui s'est imposée. C'est une première victoire pour une Française depuis 1997. Merci Servane de Pastre. C'était le journal de 6h30. Meta sur le banc des accusés poursuivis aux États-Unis pour le rachat il y a plus de 10 ans d'Instagram et de WhatsApp. C'est à la une du journal de l'économie, juste après l'esprit des mots.
La matinale écho de Radio Classique avec Charles Bonner.
L'esprit des mots avec Luc Ferry dans la matinale écho de Radio Classique. Bonjour Luc.
Bonjour ami. J'espère que vous n'êtes pas narcissique parce que ça se termine très très mal pour le malheureux, enfin pour le méchant Narcisse, parce que c'est un personnage insupportable, c'est un personnage entièrement négatif dans la mythologie grecque. N'écoutez pas ceux qui vous racontent bêtement que c'est un personnage positif, c'est complètement faux. Alors Narcisse, c'est le fils d'un dieu fleuve et puis d'une nymphe, la belle Lyriopée, et les parents, dès qu'il naît, vont voir le devin Tirésias pour demander si leur enfant va bien se passer, est-ce qu'il va vivre bien, est-ce qu'il va vivre vieux. Et Tirésias leur répond, oui, il vivra bien et vieux, mais à une condition, c'est qu'il ne se regarde pas trop. Personne ne comprend ce que ça veut dire. Alors, Narcisse grandit, il est ravissant, ça devient un jeune homme très beau, il séduit les jeunes filles, il séduit les nymphes, il séduit notamment la nymphe Écho, qui est affectée d'une malédiction que lui a infligée Héra. Elle ne peut que répéter la dernière syllabe qu'elle a entendue. Donc évidemment, Narcisse, méchant comme tout, se moque d'elle, elle va en mourir. Alors les sœurs de Écho, les nymphes, demandent à Némésis, Némésis c'est une des divinités de la vengeance, de venger leur sœur, de venger la pauvre petite Écho. Et Némésis, et elles disent à Némésis, fais en sorte Némésis que Narcisse tombe amoureux de quelqu'un qu'il ne pourra jamais posséder. Et évidemment, Némésis lui jette ce mauvais sort de telle sorte que Narcisse va tomber follement amoureux de lui-même. Il faut lire ça dans Ovide, c'est magnifique. Et dans Ovide, on voit les dialogues, si je puis dire, que Narcisse entretient avec lui-même. On voit que lorsqu'il se voit dans l'eau, son visage qui se reflète comme un miroir, comme dans une eau de miroir, si je puis dire, il essaye de s'attraper, de s'embrasser. Il dit, mais pourquoi tu ne me réponds pas? Il ne comprend pas qu'il se parle à lui-même. Donc, et puis sa fin va être atroce parce que quand il meurt, parce qu'il meurt de faim et de soif, parce qu'il n'arrive qu'à s'occuper de lui-même, à se regarder lui-même, quand il traverse le fleuve des enfers, enfin un des quatre fleuves des enfers, il essaye encore de se parler à lui-même, de s'attraper, mais il n'y arrive pas. Et donc il meurt dans des conditions atroces. Il est le contraire absolu de Socrate, qui est l'image du sage, si je puis dire. Socrate était laid à l'extérieur mais beau à l'intérieur. Narcisse est beau à l'extérieur mais laid à l'intérieur. Évidemment, message philosophique très profond que je ne développe pas là, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Alors donc, encore une fois, ne croyez pas ceux qui vous racontent des carabistouilles en disant que c'est un mythe positif dans la mythologie, c'est complètement faux. C'est le mythe le plus négatif, le personnage le plus négatif qui soit.
Merci Luc Ferry. Luc Ferry pour l'esprit des mots, et vous revenez demain avec Stéphane Pedrati.
Bonjour, c'est Pauline Lambert. Nous ouvrons cette semaine en fanfare dans Tempo, avec une fanfare, forcément. Une musique qui n'est pas nécessairement tonique ni tonitruante. La preuve, tout à l'heure, dans Tempo.
14h30, 17h, Tempo, avec Pauline Lambert, sur Radio Classique.
Le journal de l'économie, sur Radio Classique.
Avec Natran, opérateur national de transport de gaz.
Il est 6h42, l'économie en trois titres. En pleine guerre commerciale, l'Europe se prépare à une déferlante de produits chinois sur son marché. Le gouvernement prépare le budget 2026 avec un effort annoncé de 40 milliards d'euros. Et puis Meta sur le banc des accusés aux États-Unis, poursuivi pour le rachat d'Instagram et de WhatsApp. Le délai a changé, annoncé dans un mois ou deux. Donald Trump va annoncer finalement cette semaine des droits de douane sur les semi-conducteurs, jusque-là exemptés car les États-Unis en sont très dépendants. Mais les droits de douane, c'est son arme dans la guerre commerciale qu'il mène principalement avec la Chine. Une guerre que subit le reste du monde, c'est le cas de l'Europe qui s'attend à voir une arrivée de produits chinois sur son territoire. Textiles, automobiles, des produits moins chers. L'Europe veut donc se protéger, Zoé Pallier.
Aujourd'hui déjà, plus d'un colis sur 5 livrés par la Poste vient de sites chinois comme Temu, géant du commerce à bas coût. Ce chiffre risque d'exploser si la Chine ne peut plus vendre aux États-Unis, redoute Alain Imberg, président de l'Association des créateurs français de jouets.
Ces fabricants chinois de jouets qui travaillent pour les grosses boîtes américaines type Hasbro, Mattel, qui ont leur plus gros marché aux États-Unis, il va bien falloir qu'ils trouvent un débouché. C'est sûr qu'il va rentrer des produits moins chers, ça défavorisera ceux qui fabrique en France.
Face à ce risque, plusieurs réponses. La première consiste à renforcer les contrôles de la répression des fraudes pour vérifier que ces produits respectent nos normes. Autre levier, augmenter nous aussi en Europe certains droits de douane. Marc L'Olivier dirige la FEVAD qui réunit les professionnels du commerce en ligne.
Les petits colis en provenance de Chine aujourd'hui bénéficient d'une exemption de droits de douane, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droits de douane sur les colis de moins de 150 euros. Et donc nous, ce qu'on demande effectivement, c'est qu'on mette un terme à cet avantage totalement injustifié qui est une concurrence déloyale pour nos entreprises.
Et puis, notamment pour des secteurs comme la chimie ou l'automobile, l'Europe pourrait activer ce qu'on appelle une clause de sauvegarde et mettre en place des quotas à l'importation.
Et le sujet sera abordé parmi d'autres lors du premier conseil des entreprises. Les représentants des organisations patronales reçus ce matin à Bercy. Alors pour diversifier ses partenaires, le ministre de l'économie Éric Lombard est favorable à un accord avec le Mercosur, mais en modifiant le texte auquel est opposée la France, des modifications sur les questions agricoles et environnementales. La Chine aussi veut diversifier ses débouchés. Il y a l'Europe, mais pas seulement. Son président Xi Jinping se rend en Asie du Sud-Est, une tournée qui commence aujourd'hui au Vietnam, avant de le mener en Malaisie et au Cambodge avec toujours le même message. La Chine est un partenaire stable, pas comme les États-Unis. L'Europe, elle, entame la négociation. Elle est menée d'abord par son commissaire au commerce. Il est à Washington aujourd'hui pour rencontrer des responsables de l'administration. Ce jeudi, ce sera au tour de Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien. Difficile pour le moment de connaître vraiment les conséquences de cette guerre commerciale. Une chose est sûre, elle va impacter la croissance. C'est ce que dit Éric Lombard qui prépare déjà les esprits. Un effort considérable de 40 milliards d'euros pour le prochain budget. Objectif déficit à 4,6% du PIB. Réduire la dette, c'est un impératif selon Olivier Rodoulès, c'est le directeur des études chez Rexecode.
On a besoin de restaurer nos finances publiques dans un contexte où les taux d'intérêt augmentent. Les intérêts, en fait, ça va faire à peu près 70 milliards cette année, c'est-à-dire le double d'il y a 5 ans. Et ce qu'on a vu cette semaine sur les marchés américains, c'est qu'il suffit de peu pour que les conditions de marché se dégradent rapidement. Et puis, il y a d'autres défis comme la défense, le vieillissement, la transition écologique. Et donc, pour faire face à ces défis, il est temps de se restaurer des marges de manœuvre budgétaires.
Et pour y arriver, le ministre de l'économie exclut la piste des hausses d'impôts, même s'il veut rendre pérenne la contribution sur les hauts revenus, d'abord présentée comme temporaire et qui rapporte 2 milliards d'euros d'argent public. Tout doit être évoqué, justement, y compris la fiscalité. C'est ce que dit Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT dans les Échos ce matin. Demain, François Bayrou, le Premier ministre, va présenter lors d'une conférence de presse les défis des finances publiques. Une activité au ralenti des barrières douanières qui font leur retour. C'est donc dans ce contexte que les entreprises doivent anticiper l'avenir. Pierre Pilet, une étude de France Travail et du Crédoc nous apprend plus sur leurs intentions et particulièrement concernant les embauches. Il y aura moins de recrutements cette année.
350 000 projets d'embauche en moins par rapport à l'année dernière d'après ce baromètre, soit un recul de 12,5%. Il y aura donc 2 400 000 recrutements, prédit l'étude. C'est une baisse qui renvoie au niveau de la période pré-Covid. Plus d'une entreprise sur 4 invoque des problèmes financiers. C'est une donnée en forte progression, mais à mettre en perspective avec le nombre de défaillances en augmentation aussi. En revanche, 44% des recrutements sont prévus en CDI, soit une hausse de plus de 5% par rapport à l'an dernier. Hormis certaines professions médicales, aides-soignants, infirmiers, sages-femmes, la baisse des embauches prévues concerne l'ensemble des métiers, des branches et des régions, d'après France Travail.
Pierre Pilet en direct. Aux États-Unis, c'est l'une des plus grandes entreprises du monde qui se retrouve sur le banc des accusés. Meta, la maison mère de Facebook, poursuivie par l'agence anticoncurrentielle américaine pour le rachat de ses concurrents, à savoir Instagram et WhatsApp. C'était en 2012 et en 2014. En cas de condamnation, Meta pourrait devoir en vendre un ou les deux, Eric Kioche.
S'ils grandissent trop, ils pourraient nous perturber. On pourrait s'en prendre à une ou deux de ces plateformes. Qu'en penses-tu ? C'est ce courriel envoyé par Mark Zuckerberg au directeur financier de Meta le 5 avril 2012 qui a attiré les foudres de l'administration américaine. Car 4 jours plus tard, Facebook rachetait Instagram pour 1 milliard de dollars. Pour l'antitrust, le gendarme américain de la concurrence, cela montre que l'entreprise cherchait à asseoir la suprématie de Facebook en avalant tous ses challengers. Si le groupe est reconnu coupable, la justice pourrait ordonner la vente de l'une des plateformes, voire des deux. Peu probable, selon Maître Étienne Papin, avocat spécialiste du numérique.
Jamais dans le domaine du numérique, les GAFAM, une décision de démantèlement n'a été prise. Ces entreprises ont acquis un pouvoir qui dépasse le pouvoir économique et c'est aussi un pouvoir politique. Compte tenu de l'orientation de la nouvelle administration américaine, il serait extrêmement surprenant qu'une décision de démantèlement d'un outil de pouvoir soit prise par cette administration.
Dans un dossier similaire, Google a été condamné en octobre pour son monopole sur les moteurs de recherche. Peine prononcée, une amende pas encore déterminée et une obligation de changement de pratique pas vraiment de nature à faire vaciller les géants de la tech.
Éric Cuoche, c'est une difficulté récurrente des petites communes, la difficulté de s'assurer avec la multiplication notamment d'événements climatiques. Une conférence sur le sujet a lieu aujourd'hui. Assureurs, élus locaux réunis pour se voir présenter de premières mesures inspirées d'un rapport rendu l'an dernier, mais qui a du mal à convaincre Charlotte Goujon, c'est la maire du Petit Quevilly, près de Rouen, commune qui a du mal à s'assurer depuis les émeutes en 2023.
J'ai cru comprendre qu'ils allaient lancer un observatoire. Je ne sais pas ce qu'un observatoire va permettre de mettre en place pour les collectivités pour qu'elles puissent être assurées. On parle d'assouplir le code de la commande publique, mais parfois même en rentrant en discussion, négociation directe avec les assureurs, ils ne répondent pas aux sollicitations des communes. Moi, j'attends des réponses concrètes. Aujourd'hui, s'il se passe quelque chose sur un bâtiment, un incendie, autant dire qu'on n'est pas assuré, parce qu'une franchise à 2 millions d'euros, des montants de ce type de réparation, je ne crois pas qu'on y soit confronté. C'est des franchises qui sont délirantes pour des communes.
Une franchise passée de 100 000 à 2 millions d'euros, Charlotte Goujon répondait à Marine Salaville. Et puis des centaines d'usagers et d'élus locaux vont monter à Paris demain à bord de trains de la colère. Cela concerne les lignes Paris-Orléans, Limoges-Toulouse et Paris-Clermont-Ferrand, deux lignes sinistrées selon eux et qui ont besoin davantage d'investissements. Il est 6h50. 6%, c'est le chiffre du jour, 6%. C'est en moyenne la part que représentent les actions dans l'ensemble de l'épargne des Français. Bonjour Laurent Chauderge.
Bonjour.
Et bienvenue sur Radio Classique, vous êtes membre du comité d'investissement de BDL Capital Management. Que l'on comprenne bien, 6% c'est beaucoup, c'est peu si l'on compare à nos voisins.
Alors c'est très peu 6%, c'est 6% c'est la part dans le patrimoine du français, à la fois l'immobilier et le patrimoine financier. Et pour vous donner une idée, les Américains ont 5 fois plus d'actions que les Français. C'est-à-dire que vous prenez l'Américain moyen, il a 30% d'actions dans son patrimoine.
D'où vient cette appétence pour les actions aux États-Unis alors ?
Alors ça vient, je pense, des 200 dernières années. Dès le début, les premières entreprises américaines ont créé leur société avec des fonds de pension pour préparer les retraites à long terme de leurs employés. Et ces gens-là ont dû économiser dès le départ et épargner en actions. Alors que nous, comme vous le savez, on a un système de répartition pour nos retraites. Et donc, on n'a jamais vraiment eu le besoin de faire ça.
Et qu'est-ce que ça change, alors concrètement, si on avait la même répartition qu'aux États-Unis ?
Alors, ça change beaucoup de choses parce que sur très long terme, les actions sont la meilleure classe d'actifs. Donc, pour vous donner une idée, si vous prenez un Français et un Américain il y a 10 ans, avec 100 euros chacun, 10 ans plus tard, le Français a 130 euros et l'Américain 170 euros. Donc, 30% de plus de pouvoir d'achat finalement.
L'immobilier a été plutôt un bon investissement ces 30 dernières années. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle depuis quelques années on voit apparaître de nouveaux boursicoteurs puisque l'immobilier est arrivé peut-être à un palier. Est-ce que c'est une question de période ? Un moment on est sur l'immobilier, demain on sera sur les actions et peut-être sur autre chose plus tard.
Alors oui et non, c'est-à-dire que sur long terme, c'est pas une question de classe d'actifs. La classe d'actifs actions est de loin la meilleure. Pour vous donner une idée, sur les 200 dernières années, c'est un livre de Jeremy Siegel que je vous invite à regarder, les actions ont progressé de 6,9% par an hors inflation. Ça revient à doubler votre pouvoir d'achat tous les 10 ans, alors que l'immobilier, sur longue période, ne fait que du 2-3% par an.
Et pourtant, on connaît ce message, les performances passées ne présagent pas des performances futures. On le voit bien en ce moment avec la bourse qui est volatile, on perd 3% un jour, on en gagne 1 le lendemain. C'est pas rassurant pour les investisseurs.
Alors c'est vrai que la bourse est volatile et sachez que sur long terme, la direction est haussière. Sachez que 2 années sur 3, la bourse monte. Et c'est vrai que souvent, les Français n'ont pas assez d'actions parce qu'ils ont peur de cette volatilité. Alors il y a une image que je trouve très bonne, une analogie. Et il faut comparer la bourse à une sorte de monsieur lunatique qui un jour est euphorique et veut tout acheter et le lendemain est très déprimé et veut tout vendre. Et c'est ce qui se passe un petit peu en ce moment puisque parfois ça monte, parfois ça baisse. Mais sur le long terme, ce monsieur lunatique a une humeur beaucoup plus stable. Et donc, faut profiter des creux comme en ce moment pour acheter.
Je parlais justement des boursicoteurs qui sont souvent assez jeunes. On les a vus apparaître pendant le Covid. Mais il y a un constat, c'est que la société vieillit et les anciennes générations préfèrent posséder leur maison pour leurs vieux jours. Ça veut dire qu'il y a peu de gens qui, à l'avenir, vont se diriger vers la bourse, selon vous ?
Non, je pense pas. Alors, quand vous regardez les nouvelles générations, la proportion de nouvelles générations qui a des actions en portefeuille ou qui a déjà essayé les actions augmente par rapport à la proportion historique.
On apprend dans une étude de l'ADAN hein, qui promeut les actifs numériques qu'un tiers des Français est intéressé par les crypto-monnaies, même si 5,5 millions en possèdent déjà en France. Pourquoi il y a une fascination pour les crypto-monnaies dont on parle énormément et beaucoup moins pour les actions des entreprises ?
Alors, je pense qu'il y a une fascination pour l'argent facile et rapide, et oui. Le Bitcoin s'apparente à ça. Le Bitcoin, pour nous, est un actif avant tout spéculatif, parce qu'il n'est pas productif, c'est-à-dire qu'il ne produit rien, alors que si vous avez une action, elle produit un dividende chaque année, dont vous pouvez disposer.
Derrière ce dont on parle, ce qui se joue, c'est aussi le financement des entreprises. C'est une richesse en moins. Est-ce qu'on peut estimer financièrement la perte qu'il y a eu pour les entreprises en termes de financement ?
Vous voulez dire qu'il n'y ait pas assez de...
Qu'il n'y ait pas assez de financement, le fait qu'on ne dépense pas, ou du moins on achète moins d'actions en France qu'à l'étranger.
Ce qu'on peut estimer au niveau européen, c'est que vous avez peut-être en tête le plan Draghi qui a été sorti en fin d'année dernière, qui estime les besoins européens à quasiment 8000 milliards sur les 10 prochaines années. Quand vous faites en sorte que la proportion d'actions de l'européen et donc du français soit la même que l'américain, vous n'auriez plus de problème de financement et vous financeriez 100% du plan Draghi.
Et d'ailleurs, quand on parle des autres pays européens, est-ce qu'ils ont une culture qui est plus proche des États-Unis que de la nôtre ?
Oui, en Angleterre, ils ont quasiment la même culture. Et en Europe, ils ont une culture qui est plus semblable à la nôtre, mais pas aussi extrême. Ils ont quand même plus d'actions en moyenne dans le patrimoine.
Les actions, ça nécessite tout de même une certaine culture économique. C'est difficile quand on a peu de savoir sur quoi investir, quel secteur, quelle entreprise. Comment fait-on un bon choix ?
Un bon choix d'action, c'est deux choses. C'est qu'est-ce qu'une bonne entreprise et quel prix vous payez pour cette entreprise. Donc, qu'est-ce qu'une bonne entreprise ? C'est une entreprise qui est capable de générer un flux de trésorerie récurrent et d'avoir des perspectives de croissance. Et la deuxième question, c'est de ne pas payer trop cher pour cette entreprise pour éviter les bulles spéculatives. Une fois qu'on a dit ça, l'autre façon de faire, si vous avez moins de temps ou moins d'intérêt, c'est tout simplement d'acheter un fonds action d'une société de gestion. Donc, par exemple, nous, chez BDL Capital Management, on gère des actions européennes depuis 20 ans. Donc, c'est notre métier. Et donc, on a des fonds à disposition des particuliers.
Faire confiance aux spécialistes, c'est donc ça le message. Merci, Laurent Chauderge, membre du comité d'investissement de BDL Capital Management dans le chiffre du jour. Il est 6h56. Dans un instant, la météo et l'arrivée de Marc Bourreau pour la matinale.
Et si le meilleur de l'intelligence artificielle était au service de votre métier ? Cegid innove pour élever la performance des entreprises et leur permettre de préparer l'avenir avec confiance. Chaque mercredi à 7h59 sur Radio Classique, retrouvez les dernières innovations pour la gestion d'entreprise avec Cegid et Fabrice Lundy.
À ce stade de la compétition, tout peut arriver. Le parcours d'une équipe peut devenir une épopée. Une rencontre, un classique. Un joueur, une icône. Cette saison, l'histoire du football s'écrit sur les chaînes Canal+. Suivez les quarts de finale retour de l'UEFA Champions League avec les chocs Aston Villa Paris SG demain à 21h sur Canal+ Foot et Real Madrid Arsenal mercredi à 21h sur Canal+. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Bonjour, c'est Alain Duo. Boston, New York, la Nouvelle-Écosse. Cet automne, je vous attends avec Radio Classique sur un yacht Ponant raffiné pour une croisière de rêve. Avec la grande Chani Di Luca et John Gade au piano, le prodige du violon Luca Faolisi, Christian-Pierre Lamarca au violoncelle, la clarinette star de Pierre Génisson, la trompette feu de Lucienne Renaudin-Vary et en option la comédie musicale Chicago au cœur de Broadway.
Réservez dès maintenant votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage.
Aesio Mutuel présente.
Oh, salut Thermos, ça va ? On profite de la retraite ?
Ah, t'as pas idée, je passe mes journées au bain chaud.
Bah oui, t'as l'air changé, t'es beaucoup plus rouge-violet. C'est nouveau les cloques ?
Mais quoi ?
T'as une bonne mutuelle, rassure-moi.
Non, je t'ai dit que j'étais à la retraite. Pourquoi ?
Non, pour rien.
Ne pas avoir de mutuelle quand on est à la retraite, c'est du passé. Avec Aesio Mutuelle, c'est s'assurer d'une continuité dans sa couverture santé tout au long de sa vie. Aesio Mutuelle, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Contactez votre conseiller dès maintenant. Renseignements sur aesio.fr.
La météo, Virginie Fulpin, il fait encore doux aujourd'hui.
Oui, 7 degrés dans les Ardennes et le centre pour le plus frais ce matin, 15 en Corse au plus chaud, 10 à Paris, 12 en Alsace et à Lyon. Cet après-midi, on attend 12 à Brest, 16 à Montpellier, 20 en Ile-de-France, 22 à Strasbourg. Beaucoup de nuages, des pluies près de la Méditerranée et les averses arrivent sur la façade atlantique dans l'après-midi.
Et il est bientôt 7h. Bonjour Marc Bourreau.
Bonjour Charles, bonjour à tous.
La matinale continue avec vous jusqu'à 9h et avec à la une ce matin des piqûres de rappel.
Où en est-on de l'épidémie de Covid-19, alors qu'une campagne de vaccination démarre à partir d'aujourd'hui pour les plus fragiles? Alain Fischer, le monsieur vaccin pendant la pandémie, rappelez-vous, spécialiste en immunologie et l'invité de Radio Classique. Ce matin, nous verrons aussi avec lui où en est la recherche sur les vaccins à ARN messager, plus que prometteur pour d'autres pathologies. Et puis tout simplement, où en est la recherche à l'heure de la grande tempête soufflée par l'administration Trump contre le monde scientifique aux États-Unis? Quelles conséquences pour la recherche et pour la santé mondiale? Alain Fischer, mon invité à 8h15. Dans cette matinale également, une autre piqûre de rappel, la détermination de Vladimir Poutine en Ukraine. Bombardement meurtrier hier dans la ville de Soumy, comme un pilonnage de la diplomatie, dans l'écho du monde de Nicolas Tenzer. La guerre des droits de douane également, l'Europe a-t-elle besoin d'une injection de courage? Question ce matin avec mon esprit libre du jour, le philosophe Luc Ferry, ce sera à 8h40. Enfin, elle rêve d'un autre monde, l'exposition universelle d'Osaka au Japon. Elle démarre aujourd'hui et pour 6 mois au large de la ville.